Jérémie chapitre 20, versets 10 à 13. Jérémie chapitre 20, versets 10 à 13. Au nom de Jésus. J'entends beaucoup de gens dire du mal de moi. Ils me surnomment terreur de toutes parts. Dénoncez-le, disent les uns. Oui, dénonçons-le. Répètent les autres. Mes meilleurs amis eux-mêmes guettent ma moindre erreur. Ils espèrent me prendre en défaut. Alors disent-ils, nous le tiendrons et nous aurons notre revanche. Mais Seigneur, tu es fort et tu combats pour moi. Ce sont mes persécuteurs qui trébucheront. Ils n'auront pas le dernier mot. Humiliés d'avoir échoué, ils seront déshonorés pour toujours et personne ne l'oubliera. Toi, Seigneur Dieu de l'univers, tu sais reconnaître si un homme t'est fidèle. Tu discernes ses pensées cachées. Je t'ai confié ma cause. J'espère donc voir comment tu prendras ta revanche sur mes adversaires. Chantez pour le Seigneur et louez-le. Car il a arraché le malheureux aux griffes des malfaiteurs. Amen. Qu'est-ce que ça fait du bien de lire et de relire ces quelques versets de Jérémie? Je me suis dit, enfin quelqu'un qui a su mettre des mots sur ce que moi je pense, sur ce que moi je ressens. Sur ce que moi je pense tout bas, je n'ose pas le dire, parce qu'il faut être correct. Mais Jérémie, lui, il le dit haut et fort, car il en avait ras-le-bol, le pauvre Jérémie. Paraît-il que ce prophète Jérémie ne faisait que pleurer, pleurer tout au long de ses 40 ans de ministère. Il ne faisait que se plaindre de ce qu'il a subi dans son ministère. D'où les lamentations de Jérémie, vous le savez, juste après le livre de Jérémie, lisez les lamentations de Jérémie et vous allez comprendre ce que ce bonhomme a vécu. Et on a eu l'expression populaire, les Jérémiades, aujourd'hui. Le texte que nous avons aujourd'hui est un extrait de ce que certains théologiens appellent les confessions de Jérémie ou les confidences de Jérémie. Et moi, plutôt, je dirais le cri de ras-le-bol de Jérémie face à son Dieu. Et là, il crache tout ce qu'il a dans le cœur devant son Dieu qu'il a appelé pour être prophète. Tout d'abord, il faut situer notre texte dans la partie où on l'a retiré, puisque c'est un extrait. Au verset 7 à 10, Jérémie est en quelque sorte en train de faire une grève. Il dit, je ne veux plus être ton porte-parole. Et il ose dire son mécontentement devant son Dieu. Il dit qu'il ne parlera plus au nom de l'Éternel. En d'autres termes, il refuse de poursuivre sa mission, et c'est grave pour un prophète, comme s'il voulait rompre le contrat avec son Dieu qu'il appelait. Et regardez bien, étonnamment, Dieu laisse faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu dit, vas-y alors, si tu n'en veux plus? Mais Jérémie lui-même, il dit que plus il se tait, plus il ne parle plus au nom de Dieu, si vous lisez tout le chapitre, plus il y a un feu qui brûlait en lui, qui le consumait de l'intérieur, dans ses os, comme s'il y avait du feu dans tous ses os, vous imaginez? Et voilà le résultat, il revient vers son Dieu. Plus il se dit, allez, je vais me taire parce que cette mission va me coûter la vie. plus il est encore épuisé qu'il l'espérait. Il croyait prendre des vacances pour se promener, on va dire pour prendre une pause, mais plus il était fatigué. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, à vous de voir, je ne sais pas, mais sa vocation l'a rangé, sa vocation la poursuivait partout, même dans son sommeil. Il croyait se débarrasser de cette vocation si facile, juste d'un revers de la main, mais ce n'est pas le cas. Ce qui est bien dans ce cri de Jérémie vers son Dieu, Dieu ne lui demande pas de se taire. Il lui dit, tais-toi, tu n'es qu'un être humain, tu n'es qu'un mortel. Il le laisse faire, il le laisse parler. Dis-moi ce que tu ne veux pas. Et même, il dit, il canalise son énergie, car il sait pertinemment que Jérémie est un prophète passionné. C'est ce qui fait la particularité de Jérémie par rapport aux autres prophètes. C'est un homme passionné dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Et quand un être passionné a une genre de choses comme ceci, il investit toute son énergie. Regardez par exemple à entendre les mots durs qu'il utilisait contre Israël. Dans Jérémie, il disait, mais à quoi ça sert de proclamer ta parole à ce peuple? Et écoutez ce qu'il a dit une fois, une panthère peut-elle changer de pelage, éternel? Vous imaginez cette phrase? Une panthère peut-elle changer de pelage? C'est cause perdue, ce peuple n'écoutera jamais ce que je lui dirai. Et pourquoi insister, m'envoyer quand même? Et c'est ça qui est mystérieux. Dieu sait qu'Israël n'écoutera pas son prophète, mais il l'envoie toujours. Vas-y tout de même. Parle à ce peuple. Et quand il annonçait la destruction de Jérusalem, il a utilisé un geste dur en détruisant une cruche toute neuve pour montrer l'état de ce peuple. Et vous allez peut-être me dire, oui, mais c'est normal, c'est une réaction peut-être passagère, sous le coup de l'émotion, à cause de ce qu'il avait vécu, peut-être. Peut-être qu'il a un tempérament sanguinaire, mais il faut savoir que la durée de la mission de Jérémie était de 40 ans. 40 ans sans résultat. Pour notre société d'aujourd'hui, on dit que sa mission était dans un échec. Pendant 40 ans qu'il a subi des remontrances, et il se sentait seul, isolé contre tout le monde, un peu la sensation qu'Élie Tisbite avait à l'époque, face au prophète de Baal, je suis le seul à ne pas s'agenouiller devant Baal. Il avait résisté à la corruption généralisée qui frappait Israël à ce moment-là. Car même les autres prophètes de Dieu, ses propres collègues, ils étaient devenus corrompus pour plaire aux gens, pour attirer leur faveur, pour avoir des dons, des cadeaux. Ils avaient osé déformer le message de l'Éternel. Mais Jérémie, lui, il a résisté jusqu'au bout. Il dit, l'Éternel n'a pas dit ça. Ce n'est pas évident de tenir bon dans la durée comme ça, dans une mission, chers amis. Peut-être pour 5 ans, ça va. Pour 10 ans, mais on pourrait dire que ce n'est pas tenable toute une vie. Mais ici, tout au long de son ministère, Jérémie, non seulement il était le seul contre tout le monde, seul à la lettre, mais il a dû persévérer dans cette souffrance. Mais voilà, Jérémie n'est pas un super-héros. Le grand Jérémie est toujours et restera un être humain comme vous et moi. Et là, il montre, quand est-ce que tu vas prendre ma revanche? Je suis fatigué. Il montre au grand jour son désir de revanche, il ne le cache pas, il l'assume même devant l'Éternel. Il est annoncé comme étant le prophète de malheur, ce qui explique le désamour du peuple envers ce prophète. C'est nous aujourd'hui qui le qualifions un grand prophète, mais les gens de son époque le détestaient. Et donc Jérémie était doublement peiné. Et en bonus, une grosse souffrance face aux oppressions qui arrivent à son peuple. D'un côté, il subissait la persécution de ses frères et sœurs. De l'autre côté, il avait aussi cette souffrance de voir son peuple qui souffre à cause de la captivité. Ces catastrophes qui arrivaient à son peuple ne lui font pas plaisir, même s'il est obligé par Dieu de les annoncer. On peut dire que Jérémie, lui, c'est le prophète qui a fait le sale boulot, que tout le monde ne voulait pas faire. Personne n'en veut, parce que personne ne te donnera un bravo. Et donc, quand il parle de revanche, il aspire au moment où Dieu, quand est-ce que Dieu, tu vas enfin rendre le compte de ces nations qui ont humilié Israël? Il sait que c'est l'Éternel qui les a permis de faire tout cela pour un temps limité. Et quand arrivera le moment où l'Éternel va les juger à leur tour, c'est ça qu'il attend impatiemment, ce moment. Et c'est cette attente qui fait mal. Quand est-ce que tu me rendras justice? Ce désir de revanche est aussi expliqué par les représailles qu'il a subies venant de ses propres frères. Comme je l'ai dit, il n'était pas le seul prophète. Il y en avait d'autres. Mais à la différence des autres, il était mal aimé parce qu'il ne prédisait que des choses que la majorité ne voulait pas entendre. Et donc la revanche qu'il aspirait, c'est une reconnaissance, au moins une reconnaissance de ses pères, de savoir finalement qu'il y avait un vrai prophète de l'Éternel qui était avec eux. Et cette deuxième est la plus dure à avaler pour Jérémie. Cette perte de reconnaissance de ses frères de sang qui lui infligeaient les tortures et les injustices. Alors la question qui se pose, quel serait le secret de la persévérance de Jérémie? Être persévérant ne signifie pas qu'à un certain moment, nous ne trébucherons pas. Ce n'est pas ça, être persévérant. Souvent, on se dit, sois persévérant dans la foi, frères et sœurs. Et dans notre tête, on pense, tu ne fléchiras jamais, tu ne tomberas jamais. Ce n'est pas du tout le cas. Même Jérémie, il tombe ici. La preuve, même les grands hommes de Dieu comme Jérémie a flanché à un moment donné. C'est un passage obligé, cette remise en question. Le doute, chers amis, fait partie de la foi. Parce que quand on doute, c'est là qu'on est obligé de s'accrocher au Seigneur. Le doute nous dit, tu n'as aucune force de te retenir. Tu n'es qu'un humain. Tu n'es qu'un mortel. Et tu as besoin de moi. On a besoin de ces moments de doute. Ces moments de doute sont nécessaires pour mûrir spirituellement parlant, puisque c'est Dieu qui te relève à chaque fois. Ce n'est pas toi qui se relèves. Au moment où tu n'avais même plus la force de prier, au moment où tu n'avais plus la force de chanter les hymnes, les cantiques, au moment où tu disais « je ne vais plus aller au culte », au moment où tu disais « je ne prierai plus avant de dormir », il y avait quelqu'un qui prenait soin de toi. Après que Dieu l'a consolé, qu'il a compris que sa force ne se situe pas dans le fait que les gens l'écoutent. Ce n'est pas là qu'il faut attendre, Jérémie. Si tu attends que tes amis t'apprécient, tu vas être fatigué. N'attends pas de reconnaissance des autres. N'attends pas un feedback des autres. Mais ta force se trouve plutôt dans ton appel. Puise ta force dans l'appel que tu as reçu. Et c'est quoi cet appel qu'il a reçu? Jérémie chapitre 1. Cette vocation est résumée en 6 versets. Déraciner, démolir, faire disparaître, raser, bâtir et planter. Voilà le résumé de la vocation de Jérémie. Tu as oublié le contrat que tu as signé avec moi au tout début. Et j'ai bien aimé une théologienne qui s'appelle Elena Dipede, professeure d'Ancien Testament de l'Université de Lorraine de Metz. Elle avait dit, si vous regardez ces 6 verbes de vocation de Jérémie, 4 verbes sont utilisés de façon négative et il n'y avait que 2 positifs. Ça veut tout dire que sa mission sera compliquée. Alors la consolation de son Dieu n'est pas une promesse d'une victoire écrasante face à ses ennemis, pardon, mais un appel à revenir à la feuille de route originelle. Reviens au contrat que j'avais avec toi au tout début, Jérémie. Quel était le contrat, si on peut le dire ainsi, que Dieu avait dit à Jérémie dans le chapitre 1? Je vais vous lire ce contrat que Dieu a donné à Jérémie. Quant à toi, tu passeras une ceinture à tes reins. Tu te lèveras et tu leur diras tout ce que moi je t'ordonnerai. Ne sois pas terrifié par eux, de peur que je ne te terrifie devant eux. Moi, aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville forte, une colonne de fer, une muraille de bronze face à tout le pays. Devant les rois de Juda et ses princes, ses prêtres et le peuple du pays, ils te feront la guerre. Jérémie chapitre 1, verset 17 à 19. Il fallait faire ce rappel à Jérémie. T'as oublié ? Tu vas être confronté aux puissants de ce monde, les rois, les princes, les prêtres corrompus, tous ces leaders spirituels, tous ces leaders politiques qui ont vendu leur âme. Et toi qui es resté fidèle à moi, c'est ça ta fierté, Jérémie. Quelle consolation! La couleur, elle est bien lancée. Il ne lui a pas promis un chemin de fleurs, de phrase, un combat acharné. Alors, si tu connais toi aussi l'appel et le contrat que Dieu a fait avec toi, tu sauras où mettre tes pieds. Celui qui ne sait pas où avancer, vers quelle direction partir, c'est parce qu'il a oublié le contrat que Dieu lui a fait avec lui. Alors, avant d'avancer, quand tu es fatigué, retourne en arrière et rappelle-toi ce que Dieu a dit pour toi. Et alors, c'est tout. On va dire, mais c'est tout comme consolation. Ne serait-ce pas trop maigre comme consolation, dirons-nous, diront certains. Le contrat en question, Jérémie continue l'œuvre de Dieu qu'il lui a confiée. Et pour sa cause, c'est à lui de s'en occuper. C'est pas à toi, Jérémie, de s'occuper de la revanche, c'est à moi. Le jour viendra, je réglerai leur compte. Mais toi, continue ma mission. Voilà le contrat. Et dans notre texte, il y a deux éléments très importants à retenir. Le premier, au verset 11, Jérémie présente l'Éternel comme étant « Tu es mon héros puissant ». À l'image, vous rappelez-vous les héros à l'époque, quand David était face à Goliath, il suffisait que deux personnes s'affrontaient et tout le reste gagne. Si le héros gagne la bataille, toute l'armée arrive à la victoire. Et c'est ça ce que Dieu voulait dire. C'est moi qui est ton héros. C'est moi qui battra pour toi. Toi, tu ne feras rien. Or, Jérémie, lui, il voulait faire quelque chose. Le deuxième point qui va dans le même sens et qui confirme ce qui est dit, c'est l'expression verset 12. Que je vois ta vengeance contre eux. C'est à toi que j'ai confié ma cause. Et là, il a compris, Jérémie. En reliant ces deux versets, nous pouvons déduire que finalement, ce n'est pas la revanche de Jérémie contre les nations oppresseurs et ou contre ses collègues qui lui font du mal, mais c'est Dieu lui-même qui a pris sa cause comme étant ta revanche, Jérémie, et ma revanche. Alors, elle ne sera pas perdue. C'est moi qui s'en occupe. Et rappelons-nous aussi du cri de lamentation de Jésus quand il montait à Jérusalem du mont des Oliviers où il a versé des larmes, le Christ qui pleurait en soupirant « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui sont envoyés. » Jésus lui-même a payé fort le prix. Mais Jésus avait dit une phrase qui fait froid au dos. Lorsque le temps de la revanche de Dieu sonnera, il l'a dit. Il a pleuré, les femmes de Jérusalem qui pleuraient en le voyant tomber par terre avec sa croix. Et voilà ce que Jésus avait dit. Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Car les jours viennent où l'on dira, heureuses les femmes stériles, Heureux les ventres qui n'ont pas mis au monde les seins qui n'ont pas allaité. Même Jésus avait subi cela. Pour vous dire, ne sois pas étonné si tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, que tu subis aussi ces choses-là. C'est le lot des serviteurs de Dieu. Mais sois sûr que ta revanche, c'est sa revanche. Amen.